Nous allons continuer notre lecture dans l'épître de Paul à Tite. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible, à ouvrir votre Bible au premier chapitre de Tite. Et nous allons continuer la lecture. Nous allons lire aujourd'hui des versets 5 jusque 9. Et j'étudierai aujourd'hui avec vous les versets 5 et 6. Et nous étudierons les versets 7, 8 et 9 dimanche prochain. L'épître de Paul à Tite, le chapitre 1, et nous allons lire les versets 5 à 9. Aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, je ne lirai pas dans la version du Semeur, mais je lirai dans la version de la Colombe, qui me semblait rendre un meilleur témoignage du texte grec. Mais vous pouvez faire confiance quand même à votre traduction du Semeur. Épître de Paul à Tite, chapitre 1, verset 5. Voilà, je laisse encore quelques secondes pour trouver le texte, pour que le calme se fasse et nous allons lire. Voilà ce que Paul dit à Tite. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni indiscipliné, il faut en effet que l'évêque soit irréprochable comme un tendon de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. » Voilà pour le texte que nous allons étudier aujourd'hui en partie. Récemment, je parlais avec un ami qui est capitaine dans l'aviation civile. Il est pilote de ligne. Et la compagnie aérienne pour laquelle il travaille a commencé récemment à fermer des postes et à baisser certains salaires, sans avoir prévenu les pilotes ou le reste du staff de ce genre de mesures. Et il m'expliquait que c'était difficile pour lui de garder motivé toute son équipe à travailler correctement dans ces conditions-là. Et je lui ai demandé, mais comment ça se fait finalement que vous en soyez arrivé là, puisque au départ, c'était pas comme ça. Et il m'a dit, tu sais, quand on met de mauvais pilotes aux commandes de l'avion, il finit toujours un jour par s'écraser. C'est une métaphore que nous pouvons aussi appliquer à l'Église. Si nous mettons de mauvais pilotes pour l'Église, alors l'Église finira par s'écraser. Et Paul, ici, va donner à Tite des instructions pour le choix de bons pilotes, de personnes capables de bien conduire et bien diriger l'Église pour que justement elle n'aille pas au crash, pour qu'elle ne s'écrase pas. Et on va regarder aujourd'hui, on va considérer aujourd'hui ensemble ce que Paul demande comme caractère aux dirigeants de l'Église. Et comme ça, on pourra avoir des critères d'appréciation qui sont justes et qui nous permettront de nous guider dans le choix de nos prochains responsables, sans pour autant oublier de remercier Dieu pour les responsables qu'on a déjà aujourd'hui et aussi pour ceux que nous avons eus auparavant. Et nous allons voir tout d'abord comment est-ce que les responsables sont appelés à se comporter vis-à-vis des femmes et ensuite nous verrons si les responsables ont des enfants, comment eh bien, est-ce que les enfants sont également appelés à se comporter. Lorsque Paul va écrire cette lettre à Tite, il va lui rappeler que son ministère est double sur l'île de Crète. Tout d'abord, Tite doit achever de mettre en ordre ce qui a été commencé mais qui est resté en suspens. Si Tite doit mettre en ordre certaines choses, c'est qu'il existe, au moment où Paul lui écrit, une forme de désordre dans les églises de Crète. Et il doit continuer ce qui a été commencé, notamment quant à l'organisation et à la discipline dans l'église. C'est sa première tâche, commencer son ministère en mettant en ordre ce que Paul avait déjà commencé mais qui n'est pas terminé. Et la deuxième chose, c'est que pour réaliser la première, eh bien, il faut qu'il établisse dans chaque ville des responsables dans les églises. C'est ce que Paul lui dit. Et ça nous montre qu'il y a une position qui est reconnue, qui est officielle des responsables dans l'église. N'est pas responsable qui veut, ne se nomme pas responsable qui veut. Et lorsqu'il y a des responsables dans l'église, ça montre aussi qu'on ne fait pas ce que l'on veut comme on veut sans respecter les responsables qui sont là. Surtout lorsqu'on les a soi-même choisis. Et ça montre finalement que pour que cet ordre soit établi dans l'Église, eh bien les responsables ont finalement une position des plus importantes. Ils ont une responsabilité des plus importantes. Ce sont eux qui doivent ramener l'ordre. Ils doivent redresser ce qui ne va pas. Et le terme que Paul il utilise ici quand il envoie cette lettre à Tite, c'est un terme médical. Le terme qu'on utilise pour dire il faut remettre un os à sa place quand on s'est disloqué un membre, quand on s'est... le terme m'échappe maintenant, quand on s'est luxé l'épaule ou quelque chose. Paul dit que dans l'Église, il y a quelque chose qui n'est plus à sa place. Il y a quelque chose qui n'est pas là où il devrait être. L'Église, elle ne se conduit pas comme il faudrait et Tite, avec les responsables, vont faire finalement l'œuvre de médecins, si on veut, qui remettront en ordre l'épaule qui se sera disloquée, le bras qui se sera abîmé, la cheville qui se sera foulée. Il y a un terme médical, il faut remettre à sa place dans les églises de Crète ce qui n'est plus à sa place. Il faut remettre en ordre ce qui est en désordre. Et pour cela, il faut des dirigeants. Paul a chargé Tite de cette tâche. Il lui confère par son autorité d'apôtre le droit, la légitimité, si vous voulez, d'accomplir cette tâche. Tite, il va suivre les directives qui lui ont été données par Paul. Et c'est parce que Paul est un apôtre qu'il a le droit de charger Tite de le faire et que Tite a le droit de dire « c'est ça la norme ». C'est comme ça qu'on fait parce que c'est Paul, apôtre de Jésus-Christ, qui m'a chargé de le faire et qui m'a donné les instructions. Il ne m'a pas juste dit « mets des responsables dans l'église, mais débrouille-toi pour savoir comment ils doivent être ». Paul lui a dit « il faut des responsables et voilà ce que tu dois rechercher » pour qu'il puisse y avoir des responsables dans l'Église. L'établissement des dirigeants, c'est la première étape pour qu'il y ait de l'ordre et une vie saine dans l'Église. C'est la première étape. Et ça nous montre que les dirigeants ont un rôle primordial dans la vie de l'Église. Et cela doit aussi rappeler à ceux d'entre nous qui sommes dirigeants que nous avons une grande responsabilité quant à la conduite de l'Église. Que nous soyons membres du conseil, mais aussi que nous soyons responsables d'une autre activité dans l'Église. Nous devons avoir un ministère qui est un ministère fidèle. S'il n'y a pas de dirigeant, vous pouvez comprendre ancien, le texte de la Colombe utilise le terme d'évêque, qui était un terme un peu plus ancien, puisque la traduction de la Colombe est aussi une traduction un peu plus ancienne, mais vous pouvez comprendre ancien sans problème, puisque les termes sont relativement interchangeables. Et pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait des dirigeants, des anciens. Et s'il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas d'autorité. S'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'ordre. Et s'il n'y a pas d'ordre, l'Église se corrompt et à la fin, elle meurt. Une Église sans dirigeants, sans ordre, corrompue, finit toujours par mourir. Elle pourrira si elle n'a pas quelqu'un pour la guider et pour la conduire. Les dirigeants sont donc garant de la bonne marche de l'Église selon la volonté de Dieu. Et dans ce cas précis, eh bien, c'est l'avenir de l'Évangile dans toute l'île de la Crète qui est en danger. C'est l'Évangile dans toute l'île de Crète qui est en jeu ici. Toutes les églises de cette île ont besoin de dirigeants parce qu'il y a des choses qui commencent à se disloquer. Et si on ne fait rien, si Paul n'avait rien fait, si Tite n'avait rien fait, l'Évangile aurait pu disparaître totalement, être totalement corrompu, devenir totalement pourri à cause de l'absence de dirigeants. C'est toute une île qui risque de voir l'Évangile mourir en son sein s'il n'y a pas de dirigeants. Ainsi, Paul va donner des directives. Paul va dire « voilà comment il faut faire, voilà qui il faut choisir, voilà les choses qu'il faut rechercher ». Et on les a lues, ces directives, ensemble. Et on se rend compte qu'avec de telles directives, eh bien, il y a quand même une certaine responsabilité sur les épaules des dirigeants. On se rend compte que, eh bien, on ne peut pas imaginer que n'importe qui puisse devenir dirigeant dans l'Église, que n'importe qui puisse être prétendant à cette tâche. Il est vrai que vouloir diriger l'Église, c'est une belle tâche, c'est une tâche noble, c'est une belle œuvre pour le service du Seigneur. Mais si on le fait pour chercher la gloire personnelle, eh bien, on risque d'être extrêmement déçu. Et si on le fait pour chercher l'enrichissement, à moins que l'on prêche l'évangile de la prospérité, qui n'est pas l'évangile, eh bien on risque d'être très déçu. Parce que le service du Seigneur n'est pas là pour nous. Il est là pour le Seigneur premièrement et pour l'Église. Et Paul va utiliser une tournure de phrase que j'apprécie et qui, me semble-t-il, rend bien compte du texte grec. Il dit qu'il faut établir des anciens dans chaque ville et il dit « si il s'y trouve », c'est-à-dire dans chaque ville, « un homme irréprochable, eh bien, Voilà les choses qu'il faut regarder quant à lui. Mais c'est intéressant de voir que Paul dit « si il s'y trouve dans chaque ville un homme qui remplisse les conditions ». Paul il dit ici qu'on ne prend pas des anciens, on ne prend pas des dirigeants par-dessus la jambe, à tout prix ou par défaut, parce qu'il en faut, donc on prend celui qui est bien intentionné, celui qui veut bien, et puis on le met à la place. Paul il dit la condition c'est qu'il y ait dans ces villes-là un homme qui soit irréprochable. S'il n'y a pas ce genre d'homme, on ne met pas de responsable. Mettre des gens qui ne correspondraient pas aux caractéristiques que Paul avance ici pour Tite, c'est courir au suicide de l'Église. Un suicide dont on est responsable si on place à la tête de l'Église des personnes qui ne remplissent pas les conditions nécessaires. La charge et le rôle des responsables est trop importante pour être confiée à n'importe qui. Si personne ne peut prendre cette fonction, alors il ne faut pas chercher à tout prix à la donner à quelqu'un. Il ne faut pas forcer quelqu'un à devenir responsable s'il n'en a pas le caractère, s'il n'en a pas la conduite. Il ne faut pas faire ça. Parce que faire ça, ça serait conduire l'Église à mourir. Et il en est de même pour nous ici aujourd'hui. Il ne faut pas chercher à tout prix à ce qu'on fasse grandir le conseil, à ce qu'on élise à tout prix des anciens, des diacres ou des diaconesses. Ça ne sert à rien de chercher à le faire à tout prix, juste pour dire « mais oui, bien sûr qu'on a des anciens et des diacres et des diaconesses chez nous ». Il ne faut pas chercher à tout prix à le faire. Il vaut mieux dire « Seigneur, aujourd'hui, on ne trouve personne qui semble répondre aux critères ». Permet qu'il y ait des personnes qui soient transformées pour qu'elles répondent un jour à ces critères. Ou envoie-nous des personnes qui correspondront à ces critères. Mais si personne ne correspond à ces critères, il ne faut pas le faire. Si vous allez à l'hôpital vous faire opérer, eh bien vous ne vous attendez pas à ce que ce soit moi qui me penche sur votre corps une fois que Noémie vous aura endormi. Josiane, elle a fait non de la tête, genre « je veux pas mourir ». Mais pourtant, parfois, il arrive qu'on fasse ces choses-là dans l'Église. On veut mettre au poste de chirurgien, entre guillemets, dans l'Église, des personnes qui ne sont pas qualifiées pour ça. Et après, on s'étonne que l'Église meure. Mais ça ne sert à rien de chercher à tout prix à mettre des dirigeants s'il n'y a personne qui remplisse les conditions. Il ne faut pas forcer quelqu'un non plus à prendre une position, à prendre un rôle, un poste, entre guillemets, dans l'Église, s'il ne remplit pas les conditions pour le faire. Parce que ça n'est pas non plus lui rendre service. Il ne se rend pas service en le faisant et il ne rend pas service à l'Église. S'il se trouve un homme capable de répondre aux exigences, alors on peut considérer cette personne comme un potentiel ancien ou un potentiel membre du conseil, un potentiel diacre ou une potentielle diaconesse. Et s'il est vrai que nous ne devrions pas forcer des personnes à prendre un rôle particulier, on ne devrait pas non plus dans nos églises maintenir en poste quelqu'un qui démontrerait qu'il ne remplit pas ou plus les conditions nécessaires, même s'il les remplissait auparavant. On doit, je dirais, faire une sorte de veille pour vérifier que nos dirigeants sont toujours fidèles à ce que Paul demande. Et s'il se trouvait dans une de nos églises, eh bien que quelqu'un ne répond plus à ses caractéristiques, nous ne devrions pas le maintenir. Parce que c'est tout l'avenir de l'Église qui est en jeu. Et le choix de telle personne n'est pas toujours très aisé. Parce que, vous l'avez peut-être déjà remarqué avec vous-même, soit on demande et on attend trop des dirigeants, soit on n'est pas assez strict avec eux. Le juste milieu, le juste équilibre est parfois difficile à trouver. On attend parfois des dirigeants des choses que la Bible elle-même ne demande pas. Souvent, c'est parce qu'on comprend mal les textes. On comprend mal les textes, alors on demande finalement à nos dirigeants d'être ce qu'ils ne peuvent pas être. Et on est souvent beaucoup moins permissif avec eux qu'on l'est avec nous-mêmes. Alors il est vrai qu'en tant que dirigeants, nous avons une charge, une fonction supplémentaire qui n'est pas celle de tous les membres de l'Église. Mais parfois, nous attendons de nos dirigeants qu'ils soient bien meilleurs que nous dans des domaines où nous-mêmes nous sommes exécrables. Et parfois, eh bien, nous faisons le contraire. Parfois, on abaisse les critères bibliques. On se dit, ben, il remplit tout ça, mais pas ça. Mais vu qu'il a quand même 95% de bonnes réponses, on ne va pas trop chipoter sur les 5%. si je suis à 95% diplômé pour vous opérer du cœur et que j'ai raté mes 5% restants parce que la première opération test qu'on m'a fait faire, je doute que ça existe comme ça, bien sûr. Mais si on m'avait dit, ben là, tu fais une opération, si ça fonctionne, tu valides ton diplôme, et que je vous avais dit, j'ai pas mon diplôme parce que malheureusement, la personne que j'ai opérée est morte, bah vous m'auriez dit, je suis désolé, mais t'as tout réussi sur le papier, mais en pratique, c'est sans mauvais jeu de mots, c'est mort, quoi. Mais des fois, on fait ça. Des fois, on dit, c'est pas grave, il remplit toutes ces conditions, mais peut-être pas trop celle-là. Mais on va rester sur tout ce qui remplit et on va pas regarder celle qui remplit pas. C'est pas une bonne manière de faire. Ni pour lui, ni pour l'Église. C'est pas une bonne façon de faire. Ça veut pas dire qu'on attend non plus la perfection dans tous les domaines. Mais faisons attention à ne pas abaisser les critères bibliques. Parce que des fois, ben, on a peur de prendre position. C'est parfois difficile de dire, ben non, je pense que telle personne ne devrait pas accéder à cette fonction-là dans l'Église à cause de telle chose. Ce n'est pas toujours évident à dire, c'est vrai. Mais il faut penser au bien de celui qu'on va mettre à une place à responsabilité. Est-ce que je lui fais du bien en disant, oui, je suis d'accord pour qu'il aille là, alors que je me rends compte qu'il n'est pas fait pour y aller ? Est-ce que je lui fais vraiment du bien et est-ce que je fais du bien à l'Église ? Et du coup, est-ce que je vais faire du bien à moi-même ? Parce que je fais partie de l'Église. Parfois, on a peur de perdre des amis ou des frères parce qu'on aura dit « Ah ben non, moi j'ai voté contre, par exemple. » Il arrive aussi que parfois, on regarde les critères moraux et les critères comportementaux, mais on laisse de côté l'aspect théologique. C'est une bonne personne. Oui, mais sa théologie, elle est bancale. Mais c'est une bonne personne. Il aime les autres. Mais sa théologie, elle est bancale. Mais il aime les autres. Mais sa théologie... Ça arrive. Et puis des fois, on fait le contraire. Mais c'est un super bon théologien. Mais oui, mais il n'a aucun intérêt pour les gens. Mais c'est un très bon théologien, il va bien enseigner l'Église. Mais il ne visite pas spécialement les gens, il ne les aime pas spécialement. Mais tu entends ou quoi ? Il enseigne bien. Vous aurez plus envie de quelqu'un qui a quelques limites dans son enseignement, mais qui vous aime, que quelqu'un qui a un très bon enseignement, mais qui ne vous aime pas. Et quand je parle de certaines limites, c'est des choses qui restent encore à développer, à découvrir, mais pas des limites disqualifiantes. Mais parfois, on est pris dans ces dilemmes-là. Moi, je l'ai vécu dans l'église où j'étais avant. Ce que j'entends aujourd'hui de l'église où j'étais me fait mal. Parce que c'est des vieilles erreurs qui traînent et qu'on ne veut pas arrêter ce qui se passe. Tout n'est pas pourri ou mauvais hein, dans l'église d'où je viens. Mais je me rends compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été traitées, qui sont vieilles, qui datent d'avant que je m'en aille. Et qu'aujourd'hui, eh bien, ça en fait souffrir, ça en a fait partir. Si les critères théologiques ne sont pas remplis par un responsable, ben l'église elle va aller à sa perte. La sainte doctrine elle ne sera pas vraiment enseignée. Les faux enseignants et les faux enseignements ne seront pas dénoncés. Et le désordre, il va venir. Et c'est la suite de la lettre de Paul. Paul le dira au verset 10, qu'il faut que ce soit quelqu'un d'attaché, au verset 9, quelqu'un d'attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Et Paul dit ensuite, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup d'indisciplinés, de vains discoureurs, de séducteurs, etc. Paul dit qu'il faut que les critères théologiques soient remplis par celui qui est responsable, parce que sinon, il ne pourra pas faire face à l'erreur, il ne pourra pas la dénoncer, il ne pourra pas la condamner et il ne sera sans doute pas capable de faire revenir ceux qui se trompent. On ne devrait jamais bafouer les critères théologiques quand on choisit des responsables. Il faut que ce soit des gens qui ont fait leur preuve aussi. Si on a des responsables qui ne sont pas forts, entre guillemets, théologiquement, qui ne sont pas formés, qui n'ont pas un enseignement de la bonne doctrine, qui n'y restent pas attachés, eh bien l'Église mourra. Ça vous paraît peut-être alarmiste, hein, comme discours. Mais Paul s'embêterait-il à chercher des hommes comme ceux-là si ça ne servait à rien ? Paul ne mettrait pas la barre aussi haute s'il n'y avait aucun risque. Paul aurait dit de prendre des gens de bonne volonté, peut-être. Et ça aurait peut-être suffi. L'Église, elle a besoin de responsables qui sont qualifiés, qui connaissent la parole, qui sont propres à détecter l'erreur, qui sont propres à l'exposer et qui sont propres à y exposer la vérité pour la vie et pour la croissance de l'Église. Mais elle a aussi besoin de personnes ont des qualités humaines qui sont requises. Parce que quelqu'un qui est juste un bon théologien, mais qui n'a pas les qualités humaines requises, eh bien, ça deviendra simplement quelqu'un, qui sera légaliste, qui risquera de vous décourager et qui ne sera pas vraiment un modèle. Ne passons l'éponge ni sur les critères moraux, personnels, ni sur les critères théologiques. Et si nous ne trouvons personne qui remplisse les deux critères, alors ne nommons pas cette personne comme responsable de l'Église. Paul dit que le genre de personne que doit être un responsable d'Église, alors c'est vrai pour tous les hommes, dans leur famille, dans leur foyer, mais c'est vrai d'autant plus pour les responsables d'Église, eh bien cela doit être des hommes qui sont des hommes irréprochables. On a mis parfois beaucoup de choses derrière ce terme d'irréprochable. Paul ne vise pas ici une perfection morale absolue, parce qu'elle n'est pas possible. Il n'y a que Christ qui soit moralement parfait. Il n'y a que Christ qui soit moralement parfait. Ce que Paul recherche, c'est plutôt qu'il y ait l'absence de ce qui pourrait amener à faire des reproches à cette personne. Une absence manifeste de choses qui pourraient amener à faire des reproches à cette personne. Est-ce que dans la vie de telle personne que l'on aimerait voir dirigeant dans l'Église, est-ce qu'il y a des choses dont on peut dire qu'on peut lui faire des reproches? Est-ce qu'il y a des choses où on peut dire « ça ne va pas » dans sa vie? Que ce soit quant à sa personne, quant à sa conduite ou quant à sa théologie. L'apôtre Paul dit « si vous mettez des personnes en tant que responsables dans l'Église, eh bien, il faut que vous puissiez leur faire aucun reproche quant à leur personne, leur conduite ou leur théologie. » En grec, le terme que Paul utilise, c'est un terme qu'on utilise dans un tribunal. C'est un terme judiciaire, dans le sens de dire, eh bien, s'il existait, entre guillemets, un tribunal chrétien qui juge les candidats responsables, eh bien, il faudrait que ce tribunal y puisse accuser cette personne de rien. C'est ça que Paul dit, rien de manifeste. Et si on voit qu'il y a des choses manifestes qui ne vont pas dans la vie de quelqu'un, ben, il ne faut même pas imaginer le mettre à un poste de responsable. Et il ne faut surtout pas lui dire « faut que tu changes parce qu'on aimerait que tu deviennes responsable ». Certainement pas. Il faut qu'il change avant de devenir responsable. Il ne faut pas qu'il change pour être responsable. Sinon, il ne changera pas vraiment. Et je trouve que c'est intéressant dans notre Église d'avoir cette année probatoire où on peut, dans le conseil, juger ceux qui sont avec nous au conseil. C'est une bonne chose. Nous l'avons fait avec Stéphane et nous l'avons fait avec Marianne. Et c'est une bonne chose. Et c'était intéressant que quand leur année probatoire est arrivée à la fin, Stéphane nous a dit « ben moi je ne pensais pas forcément qu'on m'impliquerait autant ». Et j'ai dit « mais pour moi c'est important que ceux qui sont en année de probatoire, on peut dire, j'aime pas bien le terme, mais c'est important qu'on puisse les impliquer autant que n'importe quel membre, parce que sinon on ne peut pas vraiment juger de leur capacité à prendre des décisions, à réfléchir, à orienter la vie d'Église. » Mais en même temps, même si nous recherchons cet homme irréprochable, nous ne devons pas oublier non plus que nos dirigeants y sont tentés en toute chose. Nous ne devons pas oublier qu'ils sont encore faillibles. Rappelez-vous comment Paul a repris Pierre parce que Pierre refusait à un moment de manger avec les croyants d'origine non-juive. Pierre n'en était pas moins qualifié pour sa tâche d'apôtre. Mais il avait failli à ce moment-là et Paul l'a aidé à revenir dans le bon chemin. N'oublions pas que nos responsables ont besoin de nos prières et vous ne vous rendez pas compte peut-être à quel point nous avons besoin que vous priez pour nous. Nous avons besoin, nous en tant que membres du conseil, moi en tant que pasteur avec Chantal, nous avons besoin que vous priez pour nous. C'est vital pour nous que vous priez. On a besoin de votre soutien. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de chaque message, il faut venir me cirer mes chaussures en me disant que c'était vraiment une prédication extraordinaire. Ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est d'apporter du soutien. Parce qu'on en a besoin et on a besoin parfois d'encouragement dans l'épreuve, dans la difficulté, dans les questionnements. Vos responsables ont besoin de vous. On ne vit pas tout seul dans une tour d'ivoire et puis après il y a vous, le bas peuple. On est tous frères et sœurs, on est tous égaux devant le Seigneur en cela. Et pour que l'Église aille bien, ça passe aussi par vous. Pour que nous, nous puissions aussi aller bien. Il ne faut pas mettre les responsables à un niveau tel que dès qu'il y a une petite incartade ou un choix qui ne vous convient pas, on les disqualifie, on ne pardonne rien. Ah non, mais il est responsable. Ça, il n'avait pas le droit. Il y a des choses qui sont inacceptables. Mais il y en a qui ne sont pas des choses graves. Et parfois, ces choses pas très graves, on les met au rang des choses, de choses qui sont tout à fait différentes. Ne glorifiez pas vos responsables. Parce que ce sont des hommes et des femmes normaux. À qui il arrive aussi de s'énerver, de se mettre en colère, de faire de mauvais choix, de prendre de mauvaises décisions. Alors, ne demandons pas des choses inaccessibles à nos responsables. Et n'oubliez pas qu'avant d'être vos responsables, ils sont vos frères et vos sœurs. N'oubliez pas cela. N'oublions pas cela. Quand je prie pour vous, je ne prie pas spécialement pour vous en tant que votre responsable, forcément, mais je prie pour vous en tant que mes frères et mes sœurs. Parce que si un jour j'étais plus votre pasteur, ben j'aurais toujours envie que vous progressiez. Même si j'aurais plus la charge de l'Église. Priez pour nous, pour qu'on puisse veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Soyez avec nous des compagnons de service pour nous. Pas forcément parce que vous serez aussi responsable, mais parce que vous rechercherez aussi notre progression et notre sanctification. Et on a besoin de vous pour ça. L'apôtre Paul dit aussi, alors selon la traduction pour la colombe, qu'il faut que cet homme irréprochable soit mari d'une seule femme. La Semeur a traduit et compris ça comme mari fidèle à sa femme. Pour certains, Paul voudrait dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de polygamie. Or, c'est de toute façon quelque chose qui est certain. Ce serait un peu étonnant que Paul cite ça à cause de ça. Ce n'était pas forcément non plus la pratique la plus répandue dans le monde grec de l'époque. Ça aurait plutôt été... le fait d'aller voir ailleurs que d'avoir plusieurs femmes qui auraient été punies par Paul ici, condamnées par Paul. Et en plus, d'être mari d'une seule femme, ce n'est pas simplement un critère qui s'applique aux responsables, c'est un critère qui s'applique à tout homme envers son épouse, notamment pour les chrétiens. Donc Paul ne veut sans doute pas parler ici d'être un mari d'une seule femme ou mari fidèle à sa femme dans le sens de condamner la polygamie. Même si Paul la condamne, ce n'est pas ce qu'il cherche à faire ici spécialement. Pour certains ici, Paul, il est en train de dire que les veufs qui se seraient remariés, ils ne pourraient pas venir là parce que finalement, ils auraient été maris d'une femme, puis maris d'une deuxième femme. C'est un sens que certains ont voulu donner ici. Pourtant, Paul, il dit que si certains peuvent se remarier, mais qu'ils le fassent. Alors pourquoi est-ce que Paul, en encourageant les jeunes veufs à se remarier, les disqualifierait-il en même temps de pouvoir un jour être dirigeant dans l'Église? Ça n'aurait guère de sens. D'autres ont dit ici, finalement, Paul... il ferme cette fonction aux gens qui seraient veufs et qui ne se seraient pas remariés, et il fermerait aussi cette fonction aux gens qui sont célibataires, finalement. Mais il y a des veufs qui peuvent avoir une grande expérience dans la direction de leur famille. Ça arrive. Et ils peuvent aussi, ces veufs, avoir des enfants qui remplissent les conditions qui sont énoncées par Paul. Mais du coup, les personnes qui soutiennent cette hypothèse, cette possibilité de comprendre, disent, mais comme il n'est pas marié, il ne peut pas avoir accès à la tâche de dirigeant. Ça voudrait dire qu'il aurait fallu disqualifier Roger lorsqu'Elvire est décédée, parce que Elvire n'était plus là, même s'il remplissait les autres conditions. Qu'est-ce qu'on fait, effectivement, d'un homme marié, avec des enfants qui seraient des enfants remplissant les conditions énoncées par Paul, qui seraient mariés, mais... effectivement, dont l'épouse viendrait à décéder, est-ce qu'on devrait du coup le disqualifier? Est-ce qu'il ne serait plus en charge de conduire l'Église? Moi, je pense qu'il faudrait le maintenir en poste. Est-ce que les célibataires peuvent ne pas être responsables d'Église? Est-ce qu'on ferme la porte à ceux qui sont célibataires? Paul dit que le célibat, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu a fait. Et Paul dit, le célibat, c'est une bonne chose parce que le célibat, ça permet de se consacrer tout entier au service du Seigneur. Il semblerait étrange que Paul dise « le célibat, c'est très bien parce qu'on peut se consacrer à Dieu, mais si vous voulez devenir responsable, c'est mort par contre. » Pourquoi disqualifier du service les célibataires alors que Paul dit que les célibataires ont justement vraiment du temps? Alors vous pourriez me répondre « Oui, mais en même temps, s'ils sont célibataires, ils n'ont pas d'enfants, du coup, ils n'ont pas l'habitude de s'occuper d'une famille, donc ils ne seraient pas capables de diriger l'Église du Seigneur. On va voir que c'est peut-être un tout petit peu plus difficile, entre guillemets, que ça. Il me semble aussi qu'il y a beaucoup d'apôtres qui semblent être ni mariés, ni pères, qui du coup sont responsables de l'évangélisation, de fonder des églises et de former des responsables. Alors, pourquoi est-ce que Paul dirait « c'est que pour les gens mariés qui ont des enfants qui remplissent les conditions ?» Timothée ne semble pas être marié et il semble être en plus plutôt jeune. Et Tite, même si c'est vrai qu'on nous dit peu de choses, mais Tite semble pas spécialement être marié non plus, ni avoir d'enfants. Pourtant, il est bien dit que c'est lui qui doit nommer des anciens. Donc il a bien une charge pour l'Église. Le sens littéral, et c'est pour ça notamment que j'ai pris la colombe aussi, dit que cet homme-là, qu'on voudrait mettre finalement à une tâche de responsable, doit être un homme qui est un homme d'une seule femme. Alors ça veut tout dire et ça veut rien dire à la fois parce que c'est une traduction relativement littérale du texte grec. Mais ce que le texte grec cherche à faire, et c'est ce que Paul cherche à faire, c'est de tourner finalement les regards, quand on veut choisir quelqu'un comme responsable dans l'Église, de tourner ses regards vers la conduite générale qu'il a avec les femmes qui l'entourent. Est-ce qu'il se conduit avec son épouse d'une manière différente de la façon dont il se conduit avec les autres femmes de l'Église? Est-ce qu'il est homme d'une seule femme dans ce sens-là? Un homme qui est marié, il est appelé à avoir un attachement qui est complet, qui est total pour sa femme, dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes. Il doit être en réalité un modèle de moralité et d'attachement à sa femme dans les relations avec le sexe opposé. Il doit être irréprochable dans ce domaine-là. Il doit être inattaquable. On ne doit pas pouvoir dire de lui, ben, il est marié, mais c'est vrai que parfois, il se comporte un peu bizarrement avec les sœurs de l'Église ou voilà, des choses comme ça. Il doit être irréprochable, inattaquable dans ce domaine-là. Et les hommes célibataires, ils doivent être jugés de la même manière si on souhaite qu'ils rentrent dans un poste à responsabilité. Ils sont jugés de la même façon. Comment est-ce qu'ils se comportent avec les femmes qui ne sont pas leur épouse? Est-ce qu'ils ont une conduite qui est pure? Une conduite qui est sainte, qui est irréprochable, qui est inattaquable? Leurs actes et leurs paroles, est-ce qu'ils seront empreints de respect et d'amour fraternel pour les personnes du sexe opposé? Et ces questions, elles sont valables pour les hommes mariés et pour les hommes non mariés. Parce que la moralité de nos dirigeants est importante. La moralité de nos dirigeants est importante pour qu'ils puissent diriger l'Église. Parce qu'un dirigeant qui aura des faiblesses morales, il ne sera pas capable de reprendre ceux qui ont les mêmes faiblesses morales que lui. Quand j'étais responsable de groupe de jeunes, à un moment, on avait quelqu'un dont on souhaitait peut-être qu'il devienne responsable également dans le groupe de jeunes. Bon, c'était quelqu'un qui n'était pas marié, puisque souvent les responsables de jeunesse sont des gens aussi qui sont jeunes. Et à l'époque, on a discuté avec les autres responsables et puis avec notre pasteur qui faisait office de responsable aussi sur nous autres qui étions responsables du groupe. Et on a discuté, est-ce qu'on pense que c'est une bonne chose ou pas que cette personne, elle prenne une tâche en tant que responsable. Tout le monde était d'accord sauf une personne. Moi. Je ne dis pas ça pour me rendre meilleur ou quoi que les autres, mais moi, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord parce que je leur ai dit, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils deviennent responsables du groupe de jeunes parce que, en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle fille qui vient, ce qu'il fait, c'est qu'il s'en rapproche, il passe du temps avec, parce qu'il faut comprendre qu'il faut qu'elle soit vraiment bien intégrée. Et quand on lui propose de rencontrer ces jeunes filles avec une autre jeune fille, il refuse. J'ai dit, pour moi, c'est un critère disqualificatif. Alors, décision a été prise, qu'on m'écoute ou qu'on ne m'écoute pas, je dirais, le but, ce n'est pas de porter l'attention sur moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est quelqu'un qui a découragé des jeunes filles de venir à l'église et qu'il a fini lui-même par partir. Parce que sa conduite était mauvaise. On ne devrait pas plaisanter avec ces choses-là. On ne dit pas qu'il n'existe pas des luttes, des combats, qu'il n'y a pas des choses dans des domaines dans lesquels on a encore besoin de progresser. Mais il y a une différence entre dire « j'ai des luttes, j'ai des difficultés dans ce domaine, je les confesse, je travaille, je vois une personne qui prie avec moi, envers qui je suis redevable, et simplement faire comme si tout allait bien. » Mais nous devons faire attention à ces choses-là. Et c'est ce que Paul dit. Est-ce que dans sa conduite envers son épouse et envers les femmes du sexe opposé, la personne mariée, elle remplit les conditions que Paul attend. Et si c'est un homme célibataire, est-ce que sa conduite envers les personnes qui ne sont pas son épouse, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est correcte, est-ce qu'elle est droite? Et souvent, les relations entre hommes et femmes, c'est ce qui peut faire couler une église. Quand un pasteur va s'enticher de quelqu'un qui n'est pas sa femme, qu'il va y avoir ensuite un adultère, que ça va déchirer la famille, que les dirigeants vont devoir s'en aller, que les chrétiens de l'église vont avoir des doutes sur la fiabilité de leurs dirigeants, et ensuite sur Dieu. On ne devrait jamais badiner avec ce genre de choses. Encore une fois, on sait très bien qu'aucun d'entre nous n'a atteint la perfection aujourd'hui. Mais si ce qu'on voit n'est pas bon, si ce qui est manifeste n'est pas bon, alors il ne faut pas passer par-dessus. Jamais. Jamais il ne faut passer par-dessus. Et Paul continue ensuite. Après avoir donné ce critère de moralité pour les gens, notamment pour les gens mariés, sans doute aussi parce que les difficultés étant telles dans les églises en Crète, que Paul souhaitait que ce soit majoritairement des gens mariés qui avaient déjà l'habitude de la conduite de leur foyer, qui du coup, eux, seraient capables de prendre position un peu comme un père de famille au milieu de l'église. Mais ça ne veut pas dire que ces choses-là disqualifient un homme qui serait peut-être célibataire ou qui aurait éventuellement des très jeunes enfants ou quoi que ce soit. Il est demandé de ses enfants qu'ils soient fidèles, qu'ils ne soient ni accusés de débauche ni indisciplinés. Alors, pas accusés de débauche, sans doute, c'était quelque chose du point de vue peut-être sexuel, du point de vue peut-être de la boisson. En tout cas, il fallait qu'ils aient une vie qui soit une vie dont on ne puisse pas accuser qu'il y ait des choses inacceptables. Quand on dit qu'il faut que ce soit des enfants qui ne soient pas indisciplinés, ça veut dire des enfants qui ne soient pas ouvertement rebelles à leurs parents. Que ce ne soient pas des enfants refusant l'autorité de leurs parents. Ça ne veut pas dire, attention, pour que quelqu'un soit responsable, il faut que ces enfants ne bougent pas d'un poil pendant toute la durée du culte. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez des enfants plus grands que moi, vous avez plus d'expérience que moi, et vous savez très bien que c'est très difficile de demander à un enfant de ne pas bouger du tout pendant le culte. L'idée, ce n'est pas ça. Certains comprennent que ce que Paul demande, ce soit que les enfants soient convertis. Certaines traductions choisissent de traduire « fidèle » par « converti ». John MacArthur, que vous connaissez peut-être si vous avez une Bible avec ses notes, défend l'idée que les enfants de responsables doivent être convertis. Mais il y a une chose qu'il faut relever, c'est que s'ils étaient convertis, Paul n'aurait pas besoin d'ajouter qu'ils ne doivent être accusés ni de débauche, ni être indisciplinés. Parce qu'il serait absolument inacceptable de penser que quelqu'un de converti puisse vivre dans la débauche et faire preuve d'indiscipline manifeste. Et quand je dis manifeste, c'est une indiscipline qui va au-delà du fait de dire « Ah non, maman, je ne veux pas faire ça ». Personnellement, je ne pense pas que traduire par « converti » soit une bonne traduction. Dans les églises de la Crète qui commencent à peine, ce n'est pas certain en plus qu'il y ait déjà des familles tout entières qui soient converties. Il y en a peut-être, il n'y a pas assez d'informations textuelles, il y en a peut-être, mais peut-être aussi qu'il y a majoritairement des adultes qui se sont convertis et peut-être pas forcément tous leurs enfants avec eux. Même si le livre des Actes nous montre qu'il y a des familles où les parents et les enfants se convertissaient. Donc c'est peut-être compliqué dans ces églises-là de trouver des hommes mariés dont les enfants sont forcément chrétiens. Certains voient dans cette mention des enfants ici un critère d'âge. Où on dirait, ben, finalement, il faut que le dirigeant soit un homme qui est marié, qui a des enfants qui ont un certain âge, mais qui en plus sont des enfants qui sont convertis. Et c'est pour ça, parce qu'ils seraient d'un certain âge, on pourrait attendre d'eux qu'ils soient ni débauchés ni indisciplinés. À 5 ou 6 ans, c'est un peu difficile d'être débauché ou d'être ouvertement indiscipliné. Mais le texte ne laisse pas vraiment entendre ça. Le texte n'apporte pas de qualificatif particulier quant à l'âge des enfants, et il me semble que c'est aller un peu plus loin que ce que le texte dit de vouloir appliquer ça. D'une manière générale, il me semble que ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul donne une orientation pour ceux des dirigeants qui sont mariés et qui ont des enfants. Si les dirigeants sont mariés et qu'ils ont des enfants, voici comment est-ce qu'ils devraient se comporter avec leur épouse, comme on a vu, et avec les autres femmes, mais voici aussi qu'est-ce qu'il en est de leurs enfants. Il me semble qu'une traduction un peu meilleure, c'est la traduction qui est rendue par la, par la colombe que je vous ai lu ce matin, c'est avoir des enfants qui sont fidèles, des enfants qui sont dignes de confiance, c'est-à-dire des enfants qui sont quand même dans leur globalité obéissants à leurs parents, des enfants qui sont fidèles à l'éducation que leurs parents leur ont donnée, des enfants qui sont dignes qu'on leur fasse confiance à cause de leurs parents et de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents. Paul souhaite que les enfants ne soient pas des enfants rebelles. Il veut que ce soit des enfants à propos de qui il n'y a rien de grave à dire. Il est nécessaire que les enfants se montrent obéissants, que le chef de famille sache faire respecter l'autorité de son foyer et qu'il sache conduire ses enfants à l'obéissance. Il doit être capable de faire respecter les règles dans son foyer, parce que s'il n'y arrive pas dans son foyer, il n'y arrivera sans doute pas non plus dans l'Église. Cependant, quelqu'un qui serait capable de le faire dans sa maison, mais qui n'arriverait pas à le faire dans l'Église, ben il pourrait aussi être disqualifié dans sa tâche de dirigeant. Il faut que le chef de famille soit sans reproche dans sa tâche de chef de famille. Parce que je vous disais, voilà, il faut que les enfants soient respectueux, il faut qu'ils ne soient pas débauchés, il ne faut pas qu'ils mènent une vie mauvaise. Et là, peut-être, il y a des noms, des personnes qui vous viennent en tête, et vous vous dites, pourtant, un tel, dans telle église, il est responsable, alors que son fils ceci, sa fille machin. J'aimerais qu'on puisse réfléchir un peu à ça ensemble aussi. Ce qui me semble important, c'est que ce que Paul demande, c'est que l'orientation du cœur des dirigeants soit une orientation qui refuse toute débauche, qui refuse toute indiscipline, qui ne l'excuse pas, qui ne la couvre pas, d'aucune manière que ce soit. D'aucune manière que ce soit. Qu'est-ce que c'est la responsabilité du dirigeant quant à la débauche ou à l'indiscipline d'un de ses enfants ? Est-ce qu'il a condamné cette débauche ? Est-ce qu'il a dit « ça c'est mauvais, c'est pas bon » ? Est-ce qu'il l'a dit à son enfant et est-ce qu'il l'a dit peut-être aussi à son église pour dire « moi je suis pas d'accord avec ça ». Je condamne ça aussi. Et si vous voulez le condamner ça en église, vous pouvez le faire, je suis d'accord avec vous. Ou bien, est-ce que finalement, il accepte, il laisse filer ? Ah, mais mon enfant est tellement âgé maintenant, il a la vingtaine, ou il est majeur, etc., mais je n'ai plus rien à lui dire. Est-ce qu'il fait tout pour ramener ses enfants dans le droit chemin, ou bien est-ce qu'il est permissif avec eux ? Est-ce qu'il les laisse faire, sans voir la gravité ? Il me semble que c'est une manière que Paul a de nous dire aussi, est-ce que dans l'Église, nos dirigeants acceptent certaines choses ? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'ils acceptent, ou bien est-ce qu'ils sont capables de dire, ça, c'est pas bon ? On doit arrêter ça. On doit prendre position pour ça. On ne permet pas que ça soit quelque chose qui se mette dans l'Église. Un responsable qui ne voudrait pas prendre position contre des choses mauvaises qui se passeraient dans l'Église, eh bien, il n'a pas sa place en tant que dirigeant. Il n'a pas sa place en tant que dirigeant. Parce que autant un dirigeant de l'Église, s'il a des enfants, doit être capable de dénoncer et de dire « ça, je ne suis pas d'accord avec ça », autant il le fait dans sa famille, autant il doit être capable de le faire dans l'Église. La question qu'on pose parfois, c'est « mais jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut considérer que ?» Ce n'est pas une bonne question. Parce que la vérité de ce passage, c'est que Paul, il ne dit pas les dirigeants, tant que leurs enfants, ils ont jusqu'à moins de 20 ans, ils sont responsables, après, ils ne sont plus responsables. Ce que Paul veut dire ici, c'est que c'est le caractère du dirigeant qui doit transparaître. Est-ce qu'il condamne si ses enfants vivent dans la débauche ou dans l'indiscipline ? Est-ce qu'il fait tout pour que, dès que ses enfants sont tout petits, est-ce qu'il fait tout pour les amener sur le droit chemin qui fait qu'ils éviteront la débauche et l'indiscipline ? Ou bien est-ce qu'il laisse aller, il laisse filer, il laisse faire ? S'il laisse filer et qu'il laisse faire dans sa maison, il laissera filer et il laissera faire dans l'église. Les enfants, à partir d'un certain âge, on ne doit pas non plus oublier qu'ils sont responsables de leurs actes. J'ai connu des parents chrétiens fidèles à l'évangile, dont certains enfants ont refusé tout. Ils l'ont repoussé avec violence. Et les parents ont condamné ça. Ils ont dit « je ne suis pas d'accord avec la vie que mène mon enfant en ce moment ». Et ils se sont présentés devant l'église et ils ont dit, on n'est pas d'accord avec ça, on vous demande pardon si ça vous a blessé. Priez pour nous pour qu'on reste fidèles et qu'on n'accepte pas ça dans la vie de nos enfants. Deux personnes qui ont été importantes pour moi dans ma marche avec le Seigneur avaient trois fils. Deux se sont convertis. Le dernier est homosexuel. Est-ce que ça les disqualifie ? Ils n'ont jamais accepté la conduite de leur enfant ou ses choix. Ils ont toujours condamné ces choses-là. Et je crois que c'est ça que Dieu cherche. Des personnes qui sont capables de condamner les mauvaises pratiques, les mauvaises conduites, qui sont capables de dire ça, ça n'est pas bien et ça n'est pas ce que nous voulons, ça n'est pas ce que nous désirons. Ce n'est pas comme ça que nous voulons que les choses se passent. Alors c'est vrai que les enfants sont responsables de leurs actes à partir d'un certain âge. Et on ne peut pas toujours tout remettre sur le dos des parents. Quand moi, je faisais l'andouille, ce n'était pas parce que mes parents me disaient que c'était bien. Je le faisais parce que j'étais rebelle et que je voulais faire ce qui me plaisait à moi. Si ma mère était là, elle pourrait vous donner le témoignage qu'elle n'a jamais cautionné un millimètre, ni même un millième de millimètre de ce que j'ai fait. Elle n'a jamais accepté ce que j'ai fait. Mais elle m'a dit, à ton âge maintenant, c'est toi qui es responsable de tes choix devant Dieu. Elle a continué à me dire que ce n'était pas bien. Mais elle m'a bien fait comprendre que ce n'était pas elle qui portait la responsabilité de ce que je faisais, mais que c'était moi-même. Et ainsi, les enfants qui ne se soumettent pas à leurs parents, au bout d'un certain moment, ils en sont pleinement responsables. Mais ce qui est important, c'est l'attitude des parents dans ces moments-là. Tout comme parfois, et bien certains dans l'Église refusent de se soumettre à la discipline de l'Église, à leurs responsables. Si les responsables ne font rien, qu'ils disent rien, ma foi, les responsables sont responsables du coup de ce qui se passe. Mais la tâche des responsables, c'est de condamner et de dire ça, on n'est pas d'accord avec ça. Ce n'est pas dans ce sens-là que nous voulons mener l'Église. Ce n'est pas ce que nous pensons être bon et être juste. Et ceux qui continueront de se rebeller seront pleinement responsables. Les parents doivent tout faire pour que l'autorité, leur autorité, elle soit respectée. Ils doivent tout faire pour donner la direction aux enfants. Et c'est exactement la même chose des responsables d'église. Ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment essentiel, c'est l'attitude, c'est la réaction face à la débauche et à l'insoumission. Alors, Zoé n'est pas encore dans des cas de débauche et d'insoumission, et j'espère qu'elle n'y sera jamais. Mais quand il lui vient de désobéir, eh bien, il faut la reprendre. Il faut la disputer. Pas méchamment, pas violemment, parce que c'est une toute petite fille. Mais il faut lui expliquer. Il faut lui dire. Et des fois, je lui dis, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Alors, elle comprend ce qu'elle comprend de ce que je lui dis. Mais l'important, ce n'est pas que je me dise, est-ce qu'elle comprend ? C'est que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Si j'attends qu'elle comprenne pour lui dire quelque chose, je ne lui dirai jamais rien. Parce qu'elle aura été tellement habituée à ce que je lui dise rien, que venu le moment où elle comprendra, elle dira « ça va, t'es gentil, tu vas pas commencer maintenant ». Mais j'apprends dès maintenant à lui expliquer ce qui n'est pas bien, quand elle a fait une bêtise, quand elle a pris une mauvaise décision, quand elle a fait des choses où elle a désobéi consciemment parce qu'elle sait très bien qu'il y a des choses qu'elle n'a pas le droit de faire. Je lui explique. Parce que si elle est habituée à l'autorité dès le début, elle aura moins de difficultés avec l'autorité plus tard. Je ne dis pas qu'elle ne sera pas des fois rebelle, elle a un sacré caractère, même si vous, vous voyez toujours la Zoé patiente et gentille. Elle a du caractère. Et je prépare aussi les moments qui seront peut-être un jour plus difficiles. Je les prépare maintenant, parce que ce sera bon pour elle. Vous vous rappelez peut-être de Élie, le prêtre Élie. Vous vous rappelez qu'il avait des fils. Ce n'était pas très joli à voir. Ses fils, ils couchaient avec des femmes devant la tente d'assignation. Ils volaient la viande qui était offerte à Dieu. Ils menaçaient les Israélites quand les Israélites venaient faire leur sacrifice. Et leur père leur a dit, « Ça n'est pas très beau ce qu'on dit de vous. Il faut arrêter. » Et c'est tout ce qu'il a fait. Samuel, quant à lui, lui aussi, il avait des fils. Et ses fils, ils étaient chargés d'administrer la justice en Israël. Mais ils aimaient l'argent. Ils aimaient l'argent. Et ils acceptaient des pots de vin, du coup. Ils acceptaient des dessous de table. Écoutez, on vous donne un peu plus, vous gardez le surplus, et puis vous dites rien. Les anciens d'Israël sont venus voir Samuel. Et ils ont dit, ça va pas du tout. Tu peux pas continuer à faire ça. Tes fils peuvent pas continuer, tu dois intervenir. Et ce que Samuel a fait, c'est qu'il les a, il a condamné leurs péchés et il les a destitués de leur tâche de direction et il a du coup institué un roi sur Israël. Alors, on connaît le discours de Samuel, on sait qu'il met en garde Israël. Mais il n'a pas été d'accord, Samuel, de maintenir ses enfants à cause de leurs péchés. C'est l'attitude qui a compté. Est-ce qu'on va dire que Samuel était responsable de ce que faisaient ses fils ? Ses fils, ils étaient responsables eux-mêmes des pots de vin qu'ils donnaient. Mais Samuel, il a dit, c'est vrai que c'est pas bon, c'est mauvais, et je ne vais pas laisser mes fils continuer. C'est plus eux qui vont diriger maintenant. Ce qui compte, ce que Dieu recherche, c'est l'attitude. Il n'y aura peut-être pas la perfection toujours chez les enfants de nos responsables, mais quelle est l'attitude des parents ? Quelle est l'attitude du responsable à l'égard de ces choses-là ? C'est ça qui compte. Parce que si l'attitude est bonne dans le foyer, il y a un grand pourcentage de chances qu'elle soit bonne aussi dans l'Église. L'un ne garantit pas toujours l'autre, mais c'est quand même encourageant lorsque ça se passe bien dans la famille. Du coup, les dirigeants de l'Église, s'ils sont mariés et qu'ils ont des enfants, eh bien, ils doivent montrer par l'attitude qu'ils ont envers leur épouse et dans leur conduite du foyer qu'ils seront capables de s'occuper de la maison de Dieu et de la conduire dans la bonne direction, en accord avec la volonté de Dieu. Les hommes qui sont non mariés, on l'a vu, ils ne se trouvent pas forcément exclus des postes de dirigeants de l'Église. Mais ils doivent eux aussi démontrer une attitude pure vis-à-vis des femmes et des jeunes filles autour d'eux. Et je vais vous raconter une petite histoire encore. Quand je travaillais, avant de faire l'Institut biblique et qu'on a voulu me confier des responsabilités dans mon église, mon pasteur a appelé mon patron. Et il lui a dit, ben voilà, je suis responsable d'une association dont M. Mandras fait partie, j'aurais juste quelques questions à vous poser pour savoir si on pourrait lui confier des responsabilités. J'étais un peu pris de court parce que j'en savais rien. Mon patron était des plus étonnés également. Mais il a dit, j'ai téléphoné et comme je n'avais pas d'exemple particulier de toi dirigeant quelque chose, j'ai cherché à l'extérieur si tu avais un bon témoignage auprès de ceux avec qui tu es toute la journée. J'étais là genre, ah d'accord. Mais c'est pas mal, c'est bien, il a eu raison. Et il a dit, on m'a dit que tu étais quelqu'un qui était fidèle, que tu avais une fois refusé de mentir pour un projet avec des clients et ça m'a conforté. Ça ne m'a pas dérangé qu'il le fasse. Ça m'a étonné et c'était très, très inhabituel. Mais ça ne m'a pas dérangé qu'il le fasse. Et c'est vrai que peut-être on ne peut pas toujours voir la fidélité dans la famille si la personne n'est pas mariée, mais il y a peut-être d'autres moyens de la connaître. Alors, c'était aussi une toute petite entreprise. Hein. Si j'avais travaillé chez Microsoft ou quoi, ça aurait servi à rien de téléphoner à mon patron pour savoir comment je me comportais. Hein. Il m'aurait sans doute même pas connu, mon patron. Mais on ne devrait pas forcément exclure des gens qui ne sont pas mariés, mais voir aussi comment dans d'autres services ils se sont montrés fidèles. Et je crois que chacun d'entre nous qui sommes responsables, on devrait se rappeler qu'on n'a pas été vissé à cette place pour l'éternité. Si à un moment on n'est plus dans les clous de ce que Dieu demande, c'est normal qu'on nous enlève. Et c'est pour ça aussi qu'on devrait toujours veiller sur notre conduite. L'idée, c'est pas de dire, c'est bon, je suis arrivé là, maintenant je suis là au moins pour 4 ans, du coup je peux lever le pied dans ma famille, c'est pas grave, de toute façon je remplis les conditions. Ça ne marche pas comme ça. Mais ceux, effectivement, qui ne sont pas mariés, ne sont pas forcément exclus des postes de direction de l'Église. Mais ils doivent eux aussi démontrer une attitude pure vis-à-vis des femmes et des jeunes filles qui les entourent. Et s'ils ont déjà eu des fonctions de direction à un niveau plus ou moins élevé, entre guillemets, eh bien, on peut aussi juger sur ces choses-là. Et je pense que c'est important, quand on le peut, de pouvoir juger sur ces choses-là. Les responsables, ce sont les représentants de l'Église devant Dieu. Et ce sont les représentants de Dieu devant l'Église. Moi, je n'ai pas envie d'être représenté devant Dieu par n'importe qui. Et je n'ai pas envie que quelqu'un d'entre vous ait honte que je le représente devant Dieu. Les responsables doivent donc être choisis et jugés sur les critères bibliques que Paul a donnés et qui étaient primordiaux pour que l'Évangile continue de vivre et de croître en Crète. C'était primordial. Et on doit faire attention notamment à la capacité à diriger qui se voit essentiellement dans la conduite de la famille si les responsables sont mariés et qu'ils ont des enfants. Nous devons cependant jamais oublier que les personnes qui nous dirigent sont avant tout nos frères, que les diaconesses de l'Église sont avant tout nos sœurs, Nous ne devons jamais oublier ça. La fraternité qui nous unit est plus importante que le fait que quelqu'un soit un responsable de notre Église. Ça ne veut pas dire que la fraternité, elle pardonne tout, comme ça. Mais quand on pense à nos responsables, pensons-y d'abord en tant que frères et que sœurs. Les personnes qui sont au service de l'Église, voyons-les comme des frères et comme des sœurs. N'oublions jamais cela. Nous sommes frères et sœurs. Christ nous a rendus frères et sœurs par son sacrifice. Le Saint-Esprit fait de nous une famille. Cette unité-là, le Saint-Esprit l'a mise. Et qu'elle ne soit pas mise à mal parce que l'un est notre dirigeant. Et que du coup, nous oublions qu'il est aussi notre frère. Et nos dirigeants, s'ils sont nos frères, les diaconesses de notre Église, puisqu'elles sont nos sœurs, eh bien, ce sont des personnes qui méritent du respect. Ce sont des personnes qui méritent du respect. Avant de commencer mon stage avec vous ici, je ne me rendais pas bien compte ce que c'était de diriger une Église. C'est normal, je l'avais jamais fait. On apprend énormément en passant un an avec le conseil de l'Église. Et si un jour vous avez des doutes sur vos dirigeants, nous, on veut bien vous ouvrir nos portes. Parce que c'est vrai que des fois, on ne comprend pas tout ce qui se fait, on ne comprend pas toujours tout ce que ça implique d'être responsable de l'Église. Et du coup, des fois, on a des jugements durs envers les responsables. Mais vos responsables, eh bien, ils méritent du respect. Ils méritent d'être aimés par vous. Et ils méritent d'être encouragés et soutenus par vous. C'est trop simple d'être toujours dur avec ses responsables quand on n'y pense même pas une fois par mois dans ses prières. C'est trop simple. Moi, j'ai été dur envers certains de mes responsables quand j'étais encore que dans les rangs de l'Église. Mais je ne priais pas spécialement pour eux. Et quand j'ai commencé à aller aux réunions de prière, j'ai compris que mes responsables avaient besoin que je prie pour eux. Parfois, on est tellement dur avec ceux qui nous dirigent. Et c'est triste. C'est important de se rappeler que les responsables sont eux aussi sur le chemin de la sanctification. Eux aussi, ils sont sur le chemin de la sanctification. Ils ne sont pas responsables parce qu'ils sont parfaits. Et ils ne sont pas parfaits parce qu'ils sont responsables. Et même ceux qui répondent le mieux aux critères de choix, ils ne sont pas infaillibles et ils peuvent se tromper. Rappelez-vous l'exemple que j'ai donné de Pierre et de Paul, que Paul a dû reprendre. Alors bien sûr, ces questions qui concernent la famille, ce ne sont pas les seuls critères de réflexion et de choix. Dieu y demande aussi des attributs moraux particuliers qu'on a lus ensemble ce matin et qu'on va étudier dimanche prochain. Bien entendu, je ne vais pas étudier tout le passage ce matin, parce que sinon je pense que je perdrai une bonne partie d'entre vous. Mais dimanche prochain, nous verrons que Paul a demandé ce qu'on a vu ce matin, mais qu'il demande aussi d'autres critères, d'autres caractéristiques qu'on va voir ensemble dimanche prochain. Même si l'étude du passage n'est pas terminée en entier, vous avez quand même des défis aujourd'hui. Sinon, ça serait trop facile que vous repartiez sans rien avoir à faire. Le premier défi que je vous donne, c'est que vous priez pour ceux que le Seigneur a mis à la tête de l'Église, notamment pour les personnes du conseil. Et rendez-vous compte comme Dieu fait bien les choses. Il a créé une semaine qui dure 7 jours. Et nous sommes exactement 7 au conseil. Ça fait que le défi que je vous lance, c'est que chaque jour, vous priez pour une personne du conseil. Pas juste une semaine, toute votre vie. Priez chaque jour pour un membre de votre conseil, parce qu'ils en ont besoin et parce que la relation que vous avez avec eux sera aussi meilleure à partir du moment où vous prierez pour eux. J'ai toujours eu des meilleures relations avec les gens quand j'ai prié pour eux. Demandez pour nous à Dieu de nous donner de la sagesse et du discernement, à la fois quant à la conduite de l'Église, mais aussi pour la conduite de nos familles. Parce qu'on en a besoin. Et nous, qui sommes membres du conseil, prions aussi pour que notre caractère et que nos pratiques, nos façons de faire, elles puissent refléter toujours plus les attentes du Seigneur à notre égard. Demandons pas ou attendons pas simplement que les gens de l'Église, les frères et sœurs de l'Église prient pour nous. Mais nous aussi, prions pour nous-mêmes et prions pour nos frères et sœurs qui sont avec nous au conseil. Qu'on puisse vraiment être des soutiens les uns pour les autres. Deuxième défi, c'est encore un défi de prière. Prions pour que chacun d'entre nous soit prêt à se soumettre aux dirigeants que le Seigneur donne à l'Église. Ça n'est pas facile, des fois, de se soumettre aux dirigeants, d'accepter que c'est eux que le Seigneur a mis à la tête de l'Église. Prions pour que le Seigneur nous y aide si nous n'y arrivons pas. Prions que le Seigneur nous y aide si nous n'y arrivons pas. Peut-être que parfois nous ne sommes pas toujours d'accord avec nos responsables. Mais quand c'est le cas, eh bien il faut venir nous voir, il faut parler avec nous, il faut nous questionner, il faut chercher à comprendre. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais alors pourquoi avez-vous pris telle décision? Pourquoi avez-vous fait cela? Nous sommes accessibles, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles pour ce genre de choses. Faites-le. Si vous ne le faites pas, vous êtes tout autant responsable que nous de ce que les choses n'aillent pas. On aimerait parfois que les responsables d'église soient omnipotents, omniscients, qu'ils sachent tout et qu'ils soient partout. Si c'est ce que vous attendez de moi, je pense qu'il vaut mieux chercher un autre pasteur, parce que moi, je ne suis pas capable de faire ça aujourd'hui. En tant que responsable, on veut cette relation intime et proche avec vous. Mais si vous nous fuyez, on n'y arrivera pas. Alors ne nous fuyez pas. Et s'il s'en vient à ce que nous ne soyons pas d'accord sur certaines choses, parlez-nous, venez nous voir pour qu'on puisse discuter ensemble, parce que ce sera meilleur pour vous, pour nous et pour toute l'Église. Ne soyons pas des enfants de Dieu qui soyons désobéissants. Mais, et je cite ici l'Épître aux Hébreux, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, du respect. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Dans ma vie plus jeune, je n'ai pas toujours voulu être obéissant à mes conducteurs. Eh bien, effectivement, ça n'a été pour moi d'aucun avantage. Alors je ne brandis pas ce verset de l'Écriture comme une matraque au-dessus de votre tête. Ce n'est pas toujours aisé en tant que votre pasteur de vous appeler à l'obéissance envers vos responsables, parce que ça fait un peu « obéissez-moi à tout prix », alors que ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt de dire pour que l'Église, pour que la relation se vive sainement, qu'elle se vive d'une manière belle, eh bien c'est important aussi que ceux qui sont dans l'Église soient respectueux de leurs dirigeants. Si on veut bien vivre l'Église, c'est nécessaire. On ne vivra jamais bien l'Église si on n'accepte pas d'être obéissant à nos responsables. Et je l'ai vécu moi, quand je n'étais pas responsable. Tombons pas dans la critique facile et destructrice, qui viserait à voir que ce qui nous déplaît, sans jamais nous souvenir de tout ce que nos responsables font de bon. Ne laissons pas l'amertume, la critique ou la comparaison avec d'autres serviteurs ailleurs rentrer dans l'Église. Vous trouverez toujours des personnes meilleures que moi ailleurs. Mais vous découvrirez qu'elles sont imparfaites d'une autre manière que moi, dans d'autres domaines. Ne laissons pas des choses mauvaises entrer et gangréner les relations que nous devons avoir ensemble. Parce que si le Seigneur nous a appelés à être vos dirigeants, eh bien, c'est pour votre bien. Ce n'est pas pour vous faire du mal, vous asservir ou faire quoi que ce soit de négatif contre vous. C'est pour préserver l'Évangile et pour l'enseigner que Dieu nous a appelés. Et pour finir, quelque chose d'encore plus pratique que prier, apprenons à honorer en pratique nos dirigeants. Là encore, ça fait un peu comme si je prêchais pour ma propre paroisse, mais vu que je ne suis pas le seul dirigeant, ça va quand même. Mais invitez vos dirigeants chez vous. Ouvrez-leur votre maison. Invitez-les à un repas. Apprenez à les connaître. Combien d'entre vous savent combien j'ai de frères ou de sœurs? Combien d'entre vous connaissent mon témoignage? Je l'ai quand même donné deux fois ici, c'est un peu gênant que vous ne le connaissiez pas. Mais vous voyez, on a besoin de relations plus profondes que simplement celle du dimanche. Celles du dimanche, elles sont bonnes, elles sont bien, elles sont nécessaires. Mais apprenons à nous connaître plus. Apprenez à connaître plus et mieux vos responsables. Prenez du temps avec eux. Dernièrement, moi, j'ai pris un café avec Alexandre, on a passé un super moment, on a bien discuté. On s'est encouragés, on a prié ensemble. C'était simple, c'était bien. Ça nous a fait du bien tous les deux. On ne demande pas d'être accueilli avec des repas à plusieurs milliers d'euros. Hein. Simplement des relations simples, naturelles et honnêtes. C'est tout ce dont on a besoin. Apprenons à mettre ces choses-là en forme d'une manière pratique. Honorez vos responsables. Honorez-les. Et ce sera bénéfique pour vous et pour toute notre vie d'Église. Je vais simplement prier pour conclure. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Ta parole qui a encore des choses à nous dire et à nous apprendre aujourd'hui. Je te remercie, Père éternel, pour les dirigeants que tu as donnés à cette Église. Et je te prie pour chacun d'entre nous, pour que tu nous aides à être des dirigeants qui sommes selon ton cœur, qui agissons selon ton cœur, selon ta volonté, selon tes attentes. Nous ne voulons pas être désobéissants à ce que tu attends de nous, mais nous voulons au contraire travailler chaque jour à ce que notre service soit vraiment conforme à ce que tu veux et à ce que tu attends de nous. Je te remercie pour l'Église que tu nous as donnée ici, pour nos frères et nos sœurs. Je te remercie, Seigneur, parce que nous pouvons nous occuper d'eux, parce que tu nous as donné cette responsabilité extraordinaire. Je te prie, Seigneur, pour que notre service en tant que responsable soit un service qui encourage, soit un service qui permet à nos frères et à nos sœurs de s'attacher toujours plus à ta parole, que ce soit un service qui nous permet de vivre toujours mieux l'unité dans notre Église. Nous ne voulons pas être des bergers père fouettards, je dirais, mais nous voulons être des personnes qui sommes prêts à entendre, à écouter, à parler, à s'expliquer. Nous ne voulons pas imposer une discipline restrictive, méchante, mauvaise, dure. Nous ne voulons cependant pas, Seigneur, laisser des erreurs, des faux enseignants ou des faux enseignements rentrer, Seigneur, dans l'Église. Aide-nous à veiller sur notre cœur plus que sur toute autre chose. Si nous avons des enfants et une famille, eh bien aide-nous, Père éternel, à diriger notre famille comme tu le désires, et que nous puissions transposer ce modèle de direction dans l'Église. Que si nous sommes mariés à une femme, eh bien que tu nous aides, Seigneur, à aimer notre épouse. Que tu nous aides à aimer notre épouse. Aujourd'hui, tous les hommes du conseil sont mariés, et que tu puisses vraiment nous aider à aimer notre épouse, et qu'on ait, avec les autres sœurs de l'Église, un comportement qui soit tout à fait honorable et respectable. S'il vient un jour à ce qu'il y ait des hommes célibataires qui soient au conseil, eh bien nous te prions pour qu'eux aussi aient une conduite tout à fait honorable et respectable envers leurs sœurs. Je te remercie aussi, Seigneur, pour les femmes que tu appelles à ton service dans l'Église, et je te prie pour elles aussi, pour qu'elles puissent être aussi fidèles à leur mari et qu'elles puissent avoir envers les autres hommes une conduite qui soit tout à fait également irréprochable et sainte. Nous te prions, Père éternel, pour que tu nous aides à ce que l'Église reste dans la vérité de l'Évangile, que nous ne laissions rien entrer dans l'Église qui soit contraire à ta parole et à ta volonté, mais que nous gardions, que nous protégions l'Église, et s'il y a des choses qui se disloquent, eh bien que nous puissions remettre en ordre, Seigneur. Alors c'est vrai que quand on remet un os en place, ça fait mal sur le coup, mais c'est pour qu'après les choses puissent marcher correctement. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons que dans ton Église, les choses puissent marcher correctement. Veuille vraiment bénir chacun des frères et chacune des sœurs ce matin. Veuille bénir chacun de nos dirigeants. Veuille nous réconforter, nous rassurer, nous encourager, nous bénir, nous fortifier, Seigneur, pour que nous puissions vraiment avoir un service qui soit digne de ce que tu attends de nous. Amen.